LR représenté par Gilbert, qui prendra la parole tout à l'heure, ait permis à cette première belle journée de travail sur comprendre la déconstruction d'avoir lieu. Ce matin, les réseaux sociaux, comme le rappelait d'ailleurs Nathalie hier, me rappelaient qu'il y a un an, jour pour jour, nous étions présents dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne avec quelques collègues pour la première photo qui fut faite des membres de l'Observatoire du décolonialisme qui marquait l'inauguration de ce projet de reconstruction. Et donc, c'est avec un peu d'émotion que nous retrouvons aujourd'hui. Nous sommes présents en Sorbonne et c'est parfois une belle occasion pour nous de nous rappeler ce que fut ce moment. La présidente de la Sorbonne s'inquiétait de savoir s'il faudrait déclencher ou non l'article 40 pour la protection des collègues que nous aurions nommés ou dénoncés. Alors je tiens à sa disposition la liste des premiers collègues, Heidegger, Derrida. L'article 40 va fonctionner à merveille. Je ne doute pas que bientôt nous aurons une liste longue comme le bras de collègues à protéger. Non, nous avons compris sans doute ce qu'était la déconstruction. Nous avons posé un regard objectif et clinique. C'est une façon de travailler qui n'est pas malsaine. Il est temps d'entreprendre la démarche de la reconstruction. Eh bien, c'est ce à quoi nous allons travailler à l'occasion de cette première table ronde. Et c'est avec très grand plaisir, chers collègues, que je vous laisse le soin d'animer ces travaux.
Merci beaucoup, chers collègues. Alors, l'un des organisateurs, Pierre-Henri Tavoyot, me signalait tout à l'heure que nous étions hier 600, 200 dans l'amphithéâtre et 400 par Zoom. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes présentes par Zoom, de nombreuses personnes. Vous êtes peut-être un peu moins nombreux dans l'amphithéâtre, mais j'ai compté tout à l'heure 80, hein, c'est déjà bien. Et puis, je pense que des collègues, des amis vont nous rejoindre au fil de la journée. Alors, hier a été proposée une généalogie de la déconstruction et on a abordé cette déconstruction avec de très nombreuses facettes. Et vous allez en avoir d'autres aujourd'hui, des facettes de la déconstruction. Mais la journée d'aujourd'hui va être un petit peu plus positive puisque nous allons nous projeter vers la reconstruction. Et cette première table ronde va nous permettre d'aborder les aspects juridiques. Il va beaucoup, vous allez voir, être question de droit, mais nous allons parler aussi un petit peu de laïcité, nous allons parler d'école. La table ronde qui suivra directement celle-ci sera consacrée, elle, tout entière à l'école. 5 intervenants, donc je demanderai aux intervenants d'être brefs, concis, synthétiques dans leurs propos, 7-8 minutes, je serai un président très intransigeant pour le premier tour de table. Et pour commencer, bien évidemment, Dominique Schnapper. Alors, est-il besoin de présenter Dominique Schnapper, sociologue, directrice d'études honoraires à l'École des hautes études en sciences sociales, dont beaucoup de travaux, vous le savez, ont fait date, à commencer par « La communauté des citoyens », l'un de mes livres de chevet. Dominique Schnapper, vous présidez le musée d'art et d'histoire du judaïsme et le comité des sages de la laïcité. Et vous avez souhaité nous présenter aujourd'hui, en vue panoramique, les réflexions que vous ont inspiré notre journée d'hier. À vous.
Merci. La journée d'hier a été de tellement bonne qualité que j'avais des tas de choses à dire, mais j'ai 8 minutes. Alors, du coup, je vais me concentrer sur... si ça ne vous ennuie pas, je garde mon masque.
Aucun souci.
Aucun souci, vous m'entendez. Je voudrais me concentrer donc sur deux points particuliers. Le premier, c'est les risques de dévoiement de la rationalité portée par les sciences humaines. Et les risques de dévoiement, le second, c'est les risques de dévoiement de la démocratie représentative. Les deux risques de dévoiement étant liés, puisqu'il n'y a de développement des sciences humaines que dans la démocratie. Alors Pierre-Henri a brillamment introduit hier matin l'idée du troisième âge de la déconstruction à partir de la génération dite de 68, et les historiens, à sa suite, ont confirmé que c'est un moment où l'idée de vérité des affirmations a été négligée pour que ces affirmations soient toujours soumises à la question « d'où parles-tu ?», ce qui consistait à relativiser toute proposition à la situation sociale de celui qui l'a proférée. Et c'était là la voie ouverte à une relativisation absolue de toute proposition rationnelle. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette périodisation, mais je voudrais souligner que le ver était déjà dans le fruit. Depuis que la science bourgeoise avait été dénoncée par Lysenko, les communistes, puis ceux d'entre eux qui étaient devenus des ex-communistes, mais qui avaient été formés par le communisme et qui en restaient marqués par ce communisme, ils pensaient, ils affirmaient, ils avançaient que seuls les anciens communistes pouvaient comprendre le communisme. Quant à la langue, dont on a parlé hier, je vous rappelle que c'est un professeur au Collège de France, par ailleurs charmant, fort sympathique, qui avait démontré que la langue était fasciste. Il est vrai que c'était après 68. Donc, le verre était dans le fruit, parce que cette relativisation absolue est une forme dévoyée du point de vue propre à la sociologie. Par sociologie, j'entends les sciences humaines et pas au sens académique et étroit du terme, qui consiste à substituer à la pensée essentialiste l'analyse des caractéristiques et des comportements des hommes à partir des conditions de leur vie collective. Or, ce qui est pour moi la bonne sociologie consiste à conjuguer cette relativisation avec l'horizon d'universalité qui est propre au projet même de la connaissance. La relativisation elle-même doit être relative et non absolue. Ce n'est pas si facile, mais c'est tout le sens et tout l'intérêt de ces disciplines. Or, le risque de dérive vers la radicalité est grand, parce qu'il est très tentant de s'en tenir à cette radicalité qui se traduit par la prise en compte exclusive d'un seul facteur qui permet de répondre à toutes les interrogations sur la vie sociale et de ne pas s'embarrasser de la complexité des relations entre les hommes. Cette radicalité, qui est une simplification, permet aussi de faire l'économie de se confronter aux données empiriques, puisqu'on sait d'avance les conclusions de son terrain, et puisque, selon la formule consacrée en dernière instance, on sait que ce sera la variable unique qui apportera la véritable compréhension. Alors, dans ma longue carrière, j'ai connu l'époque de la classe sociale. Nous connaissons aujourd'hui celle de la domination et de la domination des dominants sur les dominés, dont l'apothéose, comme a dit Pierre-Henri, est ce qu'on peut appeler la colonialité. Et comme on est dans la logique du complotisme, le fait de ne pas trouver de preuves empiriques n'est que la preuve de la vérité de ce facteur ultime. C'est pourquoi les historiens, comme on l'a noté hier, citent volontiers Durkheim et Bourdieu et négligent toute la sociologie et tous les sociologues qui sont issus de la réflexion fondamentale de Max Weber, sensible à la multiplicité des facteurs et à la dimension politique de la société moderne. Alors la culture woke, je prends ce terme pour résumer ce dont nous parlons, ne fait que pousser à l'incandescence, parfois à l'absurde, cette tentation de dérive des sciences sociales qui risque toujours de sombrer dans le sociologisme, c'est-à-dire une analyse où tout s'explique par cette variable unique, sans tenir compte des autres points de vue qui prennent en compte d'autres dimensions de la vie humaine. Je n'ai pas de goût particulier pour Jean-Paul Sartre, mais je me souviens toujours de sa formule « Valéry était un petit bourgeois, mais tous les petits bourgeois ne sont pas Valéry ». De la variable unique, on passe facilement à l'identité, unique par définition, et au dévoiement des départements universitaires où les étudiants et les enseignants de la même origine revendiquée ne traitent que de leur origine et refusent la collaboration de ceux qui n'en sont pas, en sorte que les racisés refusent que les non-racisés traitent du racisme et militent contre le racisme. Alors cette tentation et cette dérive des sciences sociales sont d'autant plus fortes qu'elles s'inscrivent, c'est mon deuxième point, dans le projet général de la démocratie. Le citoyen est par définition critique, mais il ne doit pas être que critique. Socrate respectait la loi de la cité, faute de quoi ne peut plus régner que la loi du plus fort. Il faut donc respecter les institutions de la République représentative, la seule dont nous ayons l'expérience dans le monde moderne, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas les juger, ni lutter pour les améliorer, ni les relativiser historiquement. Perrineau, hier, a rappelé que dans la pensée woke, le vote, les institutions parlementaires, l'état de droit n'ont plus de sens. Elles ne sont plus que le moyen de dissimuler la réalité de la domination. Or, la République donne les moyens de critiquer, de se critiquer elle-même. Le droit de grève est inscrit dans la Constitution. La critique radicale porte aujourd'hui non pas sur le fonctionnement des institutions toujours critiquables et d'ailleurs toujours critiquées, mais elle porte sur le fait même d'une institution et de l'institution en tant que telle, négligeant le fait fondamental que ce sont les institutions et l'état de droit qui donne une effectivité, comme disent les juristes, ou qui rend effective la liberté politique et l'égalité de tous les individus citoyens. Ce sont les institutions qui permettent l'émancipation des individus, à l'égard de toute assignation liée à leurs origines ethniques, sociales ou religieuses. Le non-respect des institutions émancipatrices risque de déboucher sur les deux dérives tragiques du XXe siècle, le nazisme et les communismes. Aujourd'hui, c'est le délitement intérieur des démocraties et la complaisance des démocrates, dont on a parlé hier, envers ceux qui déclarent vouloir les détruire, qui est inquiétant. On en a parlé à propos de l'islamisme. La dérive d'une partie de la gauche s'inscrit dans cette analyse. On a dit hier que l'idée communiste avait échoué et que la social-démocratie était malade. Je pense qu'elle est malade d'avoir trop bien réussi. Les sociétés européennes, pas les États-Unis, mais les sociétés européennes en tout cas, sont des sociétés social-démocrates. Alors, il reste ce nouveau peuple qu'on recherche, dont on a déjà parlé hier, et donc ce nouveau peuple s'est inscrit dans les revendications identitaristes. Notre ami Laurent Bouvet, qui vient de mourir, était un héritier de cette gauche universaliste et laïque. Il avait beaucoup d'amis, et je me flatte de compter parmi eux, mais il avait aussi beaucoup d'ennemis dans la gauche bien-pensante identitariste. On a dit hier que le mouvement woke existait partout, du Canada à la Suède. Il existe effectivement dans toutes les démocraties où la liberté risque de devenir libertarienne. Or, c'est particulièrement grave parce que la démocratie consiste à remplacer par l'échange des mots la violence qui menace toujours les sociétés humaines où les rivalités et les conflits sont normaux. Il devient grave que les mots soient détournés de leur sens jusqu'à désigner le contraire de ce qu'ils disent, que le voile devient l'expression de la liberté des femmes, l'universalisme devient un racisme, la laïcité une tyrannie. Nous savons depuis Orwell que c'est un signe qui ne trompe pas du totalitarisme, au moins celui de la pensée. On peut donc être inquiet sur l'avenir de l'université et de la démocratie dont les destins sont étroitement liés. Je conclus, pour tenir en 8 minutes. On peut s'inquiéter devant des modes de pensée, des revendications, qui, au nom d'une démocratie absolue et fantasmée, en viennent à mettre en péril les institutions de la démocratie réelle, celle qui, avec ses manquements, avec ses limites, est le seul régime convenable dont l'histoire nous a donné l'exemple. Il n'y a pas de liberté et d'égalité sans le respect des institutions qui les organisent, et la critique radicale portée par la culture woke risque de la détruire. Je pense donc, moi aussi, comme d'autres hier, qu'il faut d'autant plus la prendre au sérieux qu'elle est étroitement liée aux dérives inhérentes au projet démocratique lui-même. Je vous remercie.
Merci, merci cher Dominique Schnapper pour cette parfaite remise en perspective et également pour avoir remarquablement tenu votre temps. Alors la parole maintenant à Rémi Pellec, je vous présente en quelques mots. Il est professeur de droit à l'Université de Paris, non loin de la Sorbonne, mais également à Sciences Po Paris. C'est un spécialiste du droit de la santé et de la protection sociale, mais il s'intéresse également au mythe déconstructeur et il va nous proposer de déconstruire la déconstruction par le droit. Vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, chers collègues, pour m'en tenir au thème de notre table ronde et dans les délais impartis, mon propos sera consacré aux conditions juridiques de la reconstruction des sciences et de la culture dans l'enseignement supérieur. Le droit n'a pas à dire ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Il doit fixer le cadre qui permet aux universitaires d'exercer cette mission. Pour le fond, j'en parlerai tout à l'heure. Ce cadre existe et il est fixé sur les principes suivants. Tout d'abord, du fait de leur légitimité démocratique, les autorités politiques ont le droit de critiquer les universitaires et leurs idées, l'islamo-gauchisme de certains, par exemple. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame, je cite, que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Les universitaires sont des agents publics rémunérés sur fonds publics. La spécialité principale, c'est le droit financier public. Il est donc normal qu'ils aient à rendre compte de leurs activités et qu'ils soient exposés à la critique des autorités publiques si elles jugent que les 10 universitaires confondent l'idéologie et la science. Madame la ministre Vidal a seulement manqué de tout sens politique et de bon sens en voulant confier au CNRS une enquête scientifique sur l'islamo-gauchisme à l'université. Madame la ministre, on ne demande pas aux Anglais s'ils aiment la dinde. Cependant, pour rester dans le registre animalier, les cris d'orfraie poussés par certains de nos collègues étaient particulièrement déplacés, pour deux raisons. D'abord, eux ne se privent pas de critiquer les ministres, et on ne voit pas pourquoi la réciproque serait impossible. Ensuite et surtout, ces universitaires peuvent se permettre d'être d'autant plus virulents qu'ils bénéficient d'une protection juridique exorbitante du droit commun. Ainsi, dans une décision du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a consacré deux principes. D'abord, il a jugé, je cite, que par leur nature même, les fonctions d'enseignement et de recherche non seulement permettent, mais demandent, dans l'intérêt même du service, que la libre expression et l'indépendance des personnels, au pluriel, notez bien, soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables. D'autre part, le juge constitutionnel a ajouté qu'en ce qui concerne les professeurs, la garantie de l'indépendance résulte en outre d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, principe qui revêtait ainsi une valeur constitutionnelle. Puis, dans des décisions ultérieures, le Conseil constitutionnel a étendu la protection constitutionnelle à l'ensemble des enseignants-chercheurs. Cette extension se justifiait pleinement, car c'est la fonction et le lieu de l'exercice qui exigent l'indépendance, pas le grade ni le statut de l'agent. En revanche, dans sa récente décision du 20 décembre 2020, le juge constitutionnel a refusé de consacrer la valeur constitutionnelle du principe d'évaluation des maîtres de conférences par une instance nationale, car ce principe n'avait pas été consacré sous les trois dernières républiques. La loi de décembre 2020 a donc pu organiser un système qui favorise le localisme, malheureusement, Madame la Ministre. Voilà pour les principes constitutionnels qui nous intéressent. Mais les universitaires bénéficient aussi de la jurisprudence européenne de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Ainsi, dans une décision de 2009, la Cour a consacré le principe selon lequel, je cite, « la liberté d'expression doit normalement bénéficier à un universitaire dans le cadre du débat public ». Et la Cour a aussi consacré deux principes essentiels. Dans la répressité, la Cour a tenu à souligner, je cite encore, « l'importance de la liberté académique » qui autorise notamment les universitaires à exprimer librement leurs opinions sur l'institution ou sur le système au sein duquel ils travaillent, ainsi qu'à diffuser sans restriction le savoir et la vérité. Notez bien que la Cour a fait référence à la liberté académique, non pas pour limiter la liberté d'expression des universitaires, mais au contraire pour insister sur le fait qu'ils peuvent critiquer l'établissement au sein duquel ils travaillent. Enfin, la Cour a proclamé, je cite, « l'intérêt général qui s'attache à l'exercice de cette liberté d'expression lorsque sont en cause des questions d'intérêt public ». On remarquera que la Cour européenne des droits de l'homme consacre ses principes au bénéfice des universitaires en général, sans entrer bien sûr dans la question du statut et des grades de ces personnes. Voilà pour la jurisprudence de la CEDH. Alors maintenant, que dit la loi nationale, laquelle doit respecter à la fois les principes constitutionnels et la jurisprudence de la CEDH. Logiquement, les dispositions du Code de l'éducation s'avèrent très protectrices pour tous les universitaires, les enseignants-chercheurs, professeurs et maîtres de conférences, mais aussi les autres. Ainsi, l'article L952-2 du Code de l'éducation dispose, je cite, « Les enseignants-chercheurs 1, les enseignants 2 et les chercheurs 3 jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression » dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche sur les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent Code, les principes de tolérance et d'objectivité. Vous l'avez compris, c'est le lieu d'enseignement qui détermine la liberté dont jouissent les enseignants-chercheurs, mais aussi les enseignants et les chercheurs, et donc aussi les prags. D'ailleurs, dans une décision du 18 février 1998, le Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute juridiction administrative française, a jugé, après avoir rappelé les termes de la loi, que, je cite, « les principes d'indépendance ainsi énoncés, bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions aux professeurs agrégés affectés dans les établissements d'enseignement supérieur. Certains professeurs de droit d'université, mes chers collègues, plus férus de théorie que de droit positif, ont commis deux erreurs dans leurs commentaires de l'affaire de Grenoble, puisque c'est de cela qu'il s'agit, vous l'avez compris. Tout d'abord, ils ont prétendu que les PRAG ne bénéficiaient pas des mêmes garanties que les enseignants-chercheurs. Or, on l'a vu, c'est faux, la loi accorde logiquement la même protection. Puis, sans doute pour rattraper leur bourde, ils ont jugé que notre ami PRAG de Grenoble n'avait pas usé de sa liberté d'expression, n'avait utilisé de sa liberté d'expression qu'en tant que citoyen, et qu'en conséquence, il ne bénéficiait pas des garanties attachées à la liberté académique. C'est un nouveau sophisme. C'est au sein de Sciences Po Grenoble qu'un débat a été ouvert sur la prétendue islamophobie. Et c'est en tant qu'enseignant dans cet établissement que notre collègue PRAG a jugé a usé de sa liberté d'expression. Quant à ses propos peu amènes sur le fonctionnement de Sciences Po Grenoble, ils ne sont jamais que l'exercice du droit de tout universitaire à critiquer l'établissement où il enseigne, droit que la CEDH a consacré. Notre ami PRAG a été publiquement traité d'islamophobe, ce qui était une façon de mettre sa vie en danger, en le désignant à la vindicte des islamistes. Il est donc regrettable que Mme Vidal ait récemment repris devant la représentation nationale des arguments fallacieux, scandaleux moralement, juridiquement fautifs. Et maintenant, j'attends sereinement ma mise à pied. À moins que Mme Vidal ne suive enfin l'exemple de M. Blanquer, remarquable, qui nous a fait l'honneur de sa présence hier, lequel avait, lui, très justement, considéré qu'à Grenoble, notre ami PRAG a été victime d'une erreur formelle, sachant que tout le monde a compris que l'adjectif « formel » a été choisi pour atténuer la critique des auteurs de l'erreur. D'une façon plus générale, maintenant, que faut-il retenir du droit constitutionnel, de la Convention européenne des droits de l'homme et de la loi dans notre combat pour la reconstruction du travail universitaire? La leçon principale, c'est qu'il ne faut pas opposer la liberté académique et les libertés d'expression. Hier encore, la France insoumise invoquait la défense des libertés académiques pour contester notre droit à tenir un colloque ici, à la Sorbonne. Ce faux concept des libertés académiques est l'instrument de censure de notre liberté d'expression. Il ne peut servir de barrage au wokisme, il sert le wokisme. Une autre erreur intellectuelle et faute politique serait de vouloir épurer la langue au motif que les wokistes en font un emploi aberrant. Tout à l'heure, si le temps m'en est donné, j'évoquerai deux exemples sensibles, la race et le terme d'identité. Mais maintenant, pour conclure, me direz-vous, que faire juridiquement pour éviter que les wokistes ne fassent un usage abusif de la liberté d'expression au sein de l'université ? Ou pour éviter qu'ils n'arguent de la défense des libertés académiques pour censurer leurs opposants, c'est-à-dire nous. C'est très simple. D'abord, les autorités publiques ont tous les moyens juridiques pour faire assurer la sécurité des débats et la sérénité au sein de l'université. Si elles ne le font pas, elles sont gravement fautives. Songez que même François Hollande n'a pas pu tenir une conférence à la faculté de droit de Lille en 2019. François Hollande. Le syndicat qui a empêché la représentation des suppliantes ici à la Sorbonne a-t-il été poursuivi? Cette impunité est-elle acceptable? Maintenant, sur le plan scientifique, que faire? Concernant les travaux de recherche et les publications scientifiques, il revient aux instances universitaires de faire preuve de sérieux. Si des jurys d'examen, des jurys de thèse et d'HDR, des sections du CNU, des universités deviennent progressivement wokistes, comme certaines furent marxistes-léninistes, trotskistes, lacano-maoïstes, eh bien l'université se discréditera et le Collège de France avec, parce qu'il n'est pas en retard, hélas. Ce ne sera pas la première fois, donc. Pour éviter un naufrage complet, il nous faut tenir sur nos principes. C'est tout. Sauvons au moins l'honneur. Que dites-vous? C'est inutile, je le sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes 1000? Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge, le compromis, les préjugés, les lâchetés, que je pactise. Jamais, jamais. Ah, te voilà, toi la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Hommage à Claude Klinzer. Je vous remercie.
Merci. Merci, cher collègue, pour cette présentation extrêmement dynamique qui nous a tous fait réagir. Nous allons donner la parole maintenant à un philosophe, Adrien Louis, que je vous présente en quelques mots pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Il a travaillé sur les réformes, les mutations de l'ordre libéral. Il est l'un des biographes de Léo Strauss. Très récemment, je crois que c'était l'an dernier, il nous a donné un essai sur les meilleurs qui n'auront pas le pouvoir. C'est une réflexion sur l'excellence en démocratie. Et il s'intéresse aussi beaucoup aux questions de l'amitié civique et de la laïcité. Et il va chercher, je crois, à les articuler pour essayer de répondre à nos questionnements du jour. Vous avez la parole pour 7 minutes.
Merci beaucoup. Merci à Pierre-Henri Tavoyot pour son invitation. Alors, effectivement, puisque cette journée est placée sous le signe de la reconstruction, je voudrais plaider pour la remise en circulation d'une notion ancienne de philosophie politique qui me semble féconde, à savoir celle d'amitié civique. Cette notion peut-elle encore parler aux modernes et libéraux que nous sommes ? Je constate en tout cas que bien des préoccupations actuelles la rendent singulièrement parlante. En effet, depuis les années 1990 et les premières atteintes à la laïcité dans le cadre de l'école, l'inquiétude s'est faite toujours plus vive sur le délitement de ce qu'il est convenu d'appeler le vivre ensemble. Et avec les progrès du séparatisme et de l'offensive islamiste, il nous apparaît de plus en plus nécessaire de fonder ce vivre ensemble sur la défense d'une identité nationale que nous concevons essentiellement, du moins quand nous sommes raisonnables, comme une identité morale. Ainsi, au fil de pénibles et douloureuses expériences, nous sommes redevenus soucieux de la concorde morale des citoyens, qui était un aspect important de l'amitié civique chère aux anciens. Et l'immense difficulté que nous éprouvons à mettre en œuvre une telle concorde nous laisse penser que nos précédents gouvernants et législateurs auraient été bien avisés de ne pas la négliger aussi légèrement dans leur politique migratoire et urbaine. Toutefois, en dépit de cette proximité de préoccupation avec les anciens, le fait est que nous ne parlons pas le langage de l'amitié. Je l'ai signalé, les expressions qui ont notre faveur pour penser le lien social sont celles de vivre ensemble et d'identité nationale. Or, il me semble assez clair que cette expression substantivée de vivre ensemble est étrangement pâle, inexpressive et pour ainsi dire statique. À titre de comparaison, Aristote n'a jamais dit que l'amitié civique devait faire vivre les citoyens ensemble. Il suggérait plutôt qu'elle devait les disposer à faire du chemin ensemble. Non pas vivre, donc, mais cheminer ou avancer dans une certaine direction. Quant à la concorde morale que nous jugeons essentielle au vivre ensemble, il est légitime de vouloir l'ancrer dans une certaine idée de notre identité nationale. En même temps, on peut se demander si l'affirmation d'une telle identité est bien propre à associer les partis déjà en présence dans notre société. Autrement dit, on peut se demander si cette notion d'identité nationale ne souffre pas d'un certain déficit politique, on peut se demander si elle est suffisamment constructive. Pour expliciter ma perplexité, je voudrais commenter une déclaration que le ministre Jean-Michel Blanquer a faite sur un plateau de télévision en octobre 2019. Interrogé sur la question des mères voilées qui accompagnent les groupes scolaires, le ministre disait ceci, je le cite. « Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose d'interdit, mais ce n'est pas non plus à encourager. Ce que ça dit de la condition féminine n'est pas conforme à nos valeurs. » Fin de la citation. Que la France puisse être définie par le respect de l'égalité des hommes et des femmes, et plus concrètement par un climat social où la liberté des femmes est un élément essentiel, je crois nécessaire et important de le défendre. Mais si la loi, de l'aveu même du ministre, est impuissante à interdire la manifestation de mœurs qui paraissent contraires à ce climat social, si la loi ne peut interdire ce qui n'est pas souhaitable, à quoi nous engage exactement la déclaration du ministre ? À mon sens, Elle signale simplement que face au culte musulman, ou du moins à certaines de ses expressions, la République française se tiendra désormais dans une attitude soit de tolérance suspicieuse, soit de réprobation impuissante. Inévitablement, je pose alors la question, est-ce ainsi qu'on favorise le vivre ensemble et que l'on rapproche ceux qui sont tentés de se séparer? En tout cas, en disant notre souhait que le dissemblable soit un peu plus semblable à nous, nous n'engageons personne à aucune sorte d'action. Nous savons simplement que nous ne savons que faire d'une dissemblance que nous ne pouvons pas empêcher. Bref, au lieu d'un programme d'action, nous signons un aveu d'impuissance. Je voudrais me garder de toute naïveté ou de toute complaisance mal avisée. Mais je ne puis m'empêcher de penser que la notion d'amitié civique dessine une voie plus fructueuse et même plus plausible que celle où nous nous engageons avec celle d'identité nationale. Plus fructueuse, car si cette dernière notion d'identité nationale exprime simplement notre désir que le dissemblable soit un peu moins dissemblable, celle d'amitié civique nous donne pour horizon de créer de la confiance entre des éléments qui, de fait, sont portés à se juger dissemblables. Plus plausible, car dans une société libérale comme la nôtre, qui légitime par définition la pluralité des intérêts et des opinions, l'unité ou l'homogénéité des sentiments moraux paraît nécessairement précaire. Il me semble donc qu'il nous faut trouver d'autres ressources à la concorde morale que nous cherchons à établir. Par exemple, en favorisant certaines réunions ou certaines actions communes, et en tout cas en ne les décourageant pas. Ainsi, entre la désapprobation impuissante de la dissemblance musulmane et son acceptation aveugle et imprudente, l'amitié civique dessinerait une voie où, tout en étant au clair sur ce que nous voulons être comme nation, nous travaillerions à favoriser des rapports plus confiants et bienveillants entre ceux qui, sans partager les mêmes convictions ni les mêmes mœurs, sont et resteront concitoyens. Animé d'un tel esprit, un ministre pourrait alors se risquer à dire la chose suivante, qui ne manquera pas d'être critiqué. Donc je cite fictivement ce ministre. La France et son école sont naturellement attachées à la liberté des femmes, mais devons-nous en conclure qu'une mère voilée accompagnant un maître ou une maîtresse offense la République ou constitue une menace sérieuse pour nos enfants? Personnellement, je ne le crois pas. Ce serait la fin de la citation. Encore une fois, elle suscitera de la critique, mais elle sera néanmoins mon dernier mot.
Merci, merci Adrien Louis. Alors je me tourne vers Tariq Yildiz maintenant. Vous travaillez au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et vous enseignez également à Sciences Po Paris. Donc vous êtes sociologue et un sociologue de terrain très en prise avec la réalité des banlieues et avec l'école. Et vous allez introduire en quelque sorte la table ronde qui va suivre. On vous doit des essais qui ont marqué et dont on a beaucoup parlé dans les médias. Alors j'en citerai deux parmi trois ou quatre. Hein. Enquête sur les jeunes musulmans de France, qui sont-ils, et le racisme anti-blanc. Et vous voudriez nous parler de votre expérience de terrain. Alors voilà, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors en effet, j'ai mené un certain nombre d'études de terrain concernant la primo-délinquance, le fait religieux et un certain nombre de phénomènes liés à la violence juvénile, disons. Et je souhaitais illustrer, à travers le résultat d'un certain nombre d'entretiens, à quel point certains discours institutionnels, politiques parfois, et à l'école également, pour faire la transition, eh bien, pouvaient déstabiliser une partie de la population et la priver de repères. Et évoquer ces conséquences qui étaient assez terribles à travers un certain nombre d'exemples que je souhaite porter à votre connaissance. Hop, voilà, on va essayer comme ça, pardon. Alors, premier phénomène que je souhaitais évoquer, qui se constate malheureusement très souvent et dans différents contextes, c'est l'adaptation du niveau d'exigence à l'auditoire. Cela existe partout, dans le discours politique comme dans l'institution judiciaire. Bon, vous avez cité mon essai sur le racisme anti-blanc. On m'expliquait que tabasser quelqu'un à cause de sa couleur de peau et l'insulter de tous les noms, ce n'était pas du racisme parce que la personne n'était pas blanche. La personne qui faisait ça n'était pas blanche, en l'occurrence. Mais ça existe aussi dans, sous d'autres formes, par exemple à l'école. Je me souviens d'une enquête que j'ai menée à Pierrefitte-sur-Seine avec une enseignante de français qui était armée de très bonnes intentions et qui m'expliquait qu'elle proposait des textes de grands rappeurs à ses élèves. On était en troisième de mémoire. En plus, c'était Grand Corps Malade en l'occurrence, donc c'était pas le pire. En me disant, voilà, j'essaie d'intéresser mes élèves à travers des textes qui sont proches d'eux, pour essayer de les tirer vers ça. C'est un procédé pédagogique. Chose qu'on peut entendre aisément, mais en grattant un petit peu plus loin, dans le programme, il y avait par exemple Flaubert. Et elle me disait, voilà, c'est vrai que le temps n'est pas extensible, et parfois, on est obligé de faire l'impasse sur certaines choses. Alors, ce n'était pas une impasse totalement assumée, mais on passait beaucoup moins de temps sur Flaubert. Et vous voyez très vite les conséquences de ce genre de choses et de ce genre de pratiques. C'est que si on n'étudie pas Flaubert dans ces milieux-là ou dans ces collèges-là, à l'école, ça veut dire qu'on ne va jamais l'étudier et jamais le lire, probablement. Voilà. Et donc, on a quelque chose qui est intériorisé par les porteurs même de la parole institutionnelle, en l'occurrence, là, un professeur, parfois des magistrats. Et finalement, c'est une manière de ne pas respecter les gens qui sont en face de nous parce qu'on les considère incapables, finalement, incapables de se mettre à niveau et de comprendre la beauté d'un texte littéraire qui fait le fondement de... Enfin, qui peut, en tout cas, participer à fonder notre culture. Deuxième phénomène, on a évoqué tout à l'heure, je vais être rapide, mais sur cette critique permanente de ce qui fait notre pays, sur ce qui fait l'État... ce que peut faire l'histoire de France, les pouvoirs publics. J'ai interviewé beaucoup de personnes et j'ai été très marqué, en effet, par la critique systémique. On ne critique pas les pratiques, on pratique le fait même que l'institution existe. Bon, avec une vision très binaire, les opprimés d'un côté et les oppresseurs de l'autre, et puis c'est terminé. Voilà. Alors, bien sûr... L'idée, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas critiquer, et puis tant mieux s'il y a des discours différents. La prise de recul est tout à fait à l'honneur de notre pays, d'ailleurs. Mais vous voyez, il y a quelque chose d'un petit peu malsain de véhiculer systématiquement ce type de discours face à une population assez ciblée à chaque fois, pour leur dire, voilà, regardez combien est-ce que nous, on a été méchants avec vous, avec des effets assez, assez désastreux. On a cité Sartre tout à l'heure, c'est une phrase... qui me revient, qui dit dans Les Mots, en parlant de son grand-père, il dit « Il adorait en moi sa générosité ». Et il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on s'aime nous-mêmes en pensant être gentil avec les autres, mais en réalité, on ne les respecte pas, parce qu'on est moins exigeant, on n'ose pas poser un cadre, et finalement, les conséquences sont désastreuses pour tout le monde. Troisième phénomène, justement, c'est le refus par principe d'imposer un cadre. Partout, ça vraiment... on le voit un petit peu partout. Bon, l'exemple le plus caricatural, c'est de mettre un enfant devant un exercice et de lui dire de deviner les règles de grammaire. Bon, je pousse le trait un petit peu loin. Mais bon, on en revient un petit peu, notamment avec le ministre actuel. Mais c'est vrai que ça a été une tendance lourde et dans différents contextes. Alors, les conséquences de tout ça... Bon, c'est que c'est assez terrible pour une partie de la population qui vit dans un contexte intellectuel, culturel, familial qui peut être particulier et qui, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, n'est pas forcément entre deux cultures, mais n'a pas de culture du tout, au sens commun du terme, bien sûr, parce qu'on ne les respecte pas en abaissant le niveau d'exigence, en les enfermant dans un certain type de discours et en leur imposant finalement un destin social. Voilà. Alors, je fais vite, mais l'analyse de mes entretiens révèle vraiment ce côté de perte de repères, de difficultés, avec une parole institutionnelle qui est perçue comme faible, finalement, n'étant pas forte, qui n'est pas sûre d'elle-même. Et cette faiblesse va être méprisée. Et parfois, dans les cas les plus extrêmes, j'ai travaillé aussi sur ces questions, c'est pour ça que je me permets de l'aborder, mais certains vont se réfugier vers une certaine forme du religieux, par exemple, évidemment avec un contexte culturel et familial particulier, mais on va avoir des gens qui vont... Se diriger vers une forme de radicalisation parce que c'est la première fois qu'ils vont avoir justement un cadre solide, un apprentissage, une discipline, une rigueur, une réponse à toutes leurs questions. Je vais pousser le trait un petit peu loin, mais je donne souvent l'exemple que j'ai vu, l'exemple Caprice des dieux, le du fromage, caprice des dieux. J'ai un jeune homme qui était avant dans la délinquance, qui avait commis un certain nombre de choses et puis qui a été un repenti. Et un jour, il me dit, voilà, ce qui est bien dans ma religion, c'est qu'en fait, j'ai une réponse à toutes mes questions. Par exemple, moi, j'aimais beaucoup le fromage caprice des dieux, mais je me suis dit, bah, peut-être que c'est illicite d'en manger parce que Dieu est au pluriel. Et donc, il a posé la question à un savant, comme il dit, qui lui a dit, non, c'est illicite d'en consommer, bien sûr, c'est complètement interdit. Bon. Vous voyez, il y a un côté un petit peu ridicule, mais vous voyez la puissance d'une idéologie du prêt-à-croire, pour reprendre un vieux léger, qui soulage un petit peu. Évidemment, ce n'est pas ce que je préconise pour nos institutions. Je ne veux pas qu'on réponde à l'ensemble des questions de notre vie quotidienne, mais ça permet de comprendre la logique sous-jacente des conséquences d'un manque de repères. Et en réalité, ce qu'on se dit là, eh bien, ça va au-delà de la question des banlieues que j'ai étudiées. On pourrait citer d'autres exemples. J'ai fait une enquête avec une femme enceinte et sa propre mère, et la future grand-mère du bébé me disait, mais c'est terrible, moi à mon époque ma propre mère m'avait donné 2-3 conseils pour ma grossesse et puis c'était terminé. Elle me dit, là ma fille elle écoute la radio, elle lit les journaux, elle regarde la télé, elle pose 50 000 questions, le professeur X dit que les carottes c'est super pour le fœtus, mais le professeur Y 2 semaines après dit que c'est terrible. Bon. Donc, c'est ce qu'évoque Ehrenberg avec la fameuse fatigue d'être soi que j'adore comme titre. Mais vous voyez, c'est déjà difficile, et c'est la rançon de la liberté individuelle, mais c'est déjà difficile dans notre époque de faire des choix en permanence. Alors imaginez ce que ça peut donner dans un contexte particulier avec des fragilités particulières. Voilà. Et donc, pour conclure, bien sûr, il est essentiel de faire réfléchir, de prendre du recul sur les choses. Mais il y a un âge pour tout et des degrés différents. Et je suis persuadé qu'en réinstaurant un certain nombre de choses, en osant imposer un cadre, en respectant tout le monde, en rehaussant le niveau d'exigence de manière similaire partout, on peut y arriver. Un universitaire, ce n'est pas la même chose qu'un élève en sixième, enfin j'espère, et il a besoin de certitude. Il a besoin de certitude, quitte à les déconstruire plus tard. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors nous allons terminer ce tour de table en fait avec Anne-Marie Le Pourrier. Anne-Marie Le Pourrier est professeure de droit public à l'Université Rennin. C'est une grande spécialiste, vous le savez sans doute, de droit constitutionnel, dont elle vice-préside l'Association nationale donc de droit constitutionnel. Et par ailleurs, elle est membre du conseil d'administration de la Fondation Respublica. Alors, chère Anne-Marie Le Pourrier, quelles seraient vos préconisations en matière juridique et institutionnelle?
Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, pour votre invitation. Alors, effectivement, ce matin, nous devons être positifs, puisque nous devons nous tourner non plus vers le diagnostic, mais vers la reconstruction. Et comme vous le savez, il y a une manie française bien ancrée, je peux vous le dire, depuis 50 ans que je fais du droit constitutionnel, qui consiste à vouloir remédier à tous les maux de la société par des réformes institutionnelles. J'ai même appris récemment que pour remédier au refus antillais de se faire vacciner, le remède, c'était donner un statut d'autonomie à la Guadeloupe. C'est bizarre, hein, ça ne me paraît pas tellement adéquat, mais l'idée de la réforme institutionnelle est toujours dans le réflexe français. Alors, ce que je voudrais montrer simplement, rapidement, c'est que tous les outils juridiques, non pas d'une reconstruction, mais d'une fidélité aux principes de l'enseignement supérieur et de la recherche existent. Ils sont là, dans le droit. Il y a un corpus normatif. Simplement, ce qui pêche aujourd'hui, c'est tout simplement une carence dans les institutions qui sont chargées de faire respecter ces règles et ces principes. Donc il y a une inertie, en quelque sorte, une complicité. Et je voudrais aussi insister un petit peu sur, on a parlé des pouvoirs publics tout à l'heure, sur un double langage des pouvoirs publics qui, sans doute, condamne certaines dérives par certains côtés, mais d'un autre côté, ont très, très, très largement contribué à la situation qui existe et en sont les ardents complices, entre nous soit dit. Donc je voudrais quand même remettre les choses au point là-dessus, c'est qu'on a des outils juridiques, encore faut-il s'en servir et encore faut-il ne pas créer des outils juridiques qui, en réalité, aggravent les choses plutôt qu'elles n'y remédient. Alors tout d'abord, la liberté académique, on en a parlé tout à l'heure, est une notion juridique qui est très définie et qui est encadrée. Aucune liberté n'est une licence, n'est le droit de faire n'importe quoi. Et une liberté professionnelle comme la liberté académique, encore moins. Elle comporte presque autant de devoirs que de droits. Examinant en 1984 la loi Savary relative à l'enseignement supérieur, le Conseil constitutionnel a déduit du préambule de la Constitution un principe, certes, d'indépendance des universitaires, garanti par un statut qui peut limiter, dit-il, le droit à la libre communication des pensées et des opinions dans la seule mesure des exigences du service public. Voilà déjà un rappel, nous sommes dans un service public, ça veut dire quelque chose quand même. Les dispositions de cette loi, ça varie, ont été reprises ensuite par le Code de l'éducation qui nous dit « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir. » Voilà le mot essentiel lâché, qui est celui de l'université, c'est l'objectivité du savoir. Et ajoute encore le Code de l'éducation, les enseignants-chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions, sous les réserves que leur imposent conformément aux traditions universitaires les principes de tolérance et d'objectivité et de deux fois l'objectivité de la science est mentionnée dans le Code de l'éducation. Le Conseil de l'Europe a adopté en 2006 une recommandation relative à la liberté académique, utilisée par la jurisprudence d'ailleurs de la Cour européenne des droits de l'homme et qui reprend les principes de la Magna Carta Universitatum adopté à Bologne en 1988. Et alors, bien sûr, c'est une charte européocentrée, rédigée même en latin. Cette recommandation affirme que la liberté académique, dans la recherche comme dans l'enseignement, doit garantir la liberté de rechercher et de diffuser, sans restriction, le savoir et la vérité. Il y a quand même des principes fondamentaux qui gouvernent l'enseignement supérieur et la recherche. Et enfin, il y a une recommandation très complète de l'UNESCO qui, certes, est du droit mou, c'est une simple recommandation, mais tout de même, elle a vocation universelle et elle dit bien les choses. Cette recommandation de l'UNESCO, adoptée en 1997, se déclare préoccupée par la vulnérabilité de la communauté universitaire à l'égard des pressions politiques indésirables. L'UNESCO affirme que les universités sont des communautés d'érudits qui ont pour mission de préserver et de diffuser le savoir traditionnel et la culture, d'exprimer librement leur opinion, certes, et de poursuivre leur quête de la connaissance, sans être entravés par des impératifs doctrinaires. Et cette recommandation ajoute qu'enseigner dans le supérieur est une profession dont les membres assurent un service public qui exige des enseignants le respect de normes professionnelles rigoureuse dans l'étude et la recherche. Et donc les États membres, nous dit la recommandation, ont pour obligation de faire respecter donc les universitaires et les libertés académiques contre toute menace d'où qu'elle vienne, et pas seulement d'ailleurs de l'État. Et il est précisé que l'exercice de ces droits universitaires s'accompagne, et c'est toujours le cas, de devoirs et de responsabilités spécifiques, y compris l'obligation de respecter les libertés académiques des autres membres de la communauté universitaire. Et cette recommandation conclut sur le devoir d'en faire usage, donc de ces libertés, le devoir d'en faire usage en respectant l'obligation faite à tout chercheur de fonder son travail sur la quête sincère de la vérité, dans le respect des normes éthiques et professionnelles, en particulier le principe de la preuve, de l'impartialité du raisonnement et l'honnêteté du compte rendu. Et l'UNESCO ajoute d'ailleurs aussi, compte tenu, on l'a dit tout à l'heure, de l'usage des fonds publics par les universités, une préconisation d'obligation de reddition des comptes par les universités, reddition des comptes aussi bien scientifiques que financiers. Alors, il résulte de tout ce corpus normatif qui existe bel et bien, il résulte de tout ce corpus normatif que la liberté académique est une liberté donc professionnelle reconnue à une communauté de savants au service d'une fin. Pas plus qu'aucune autre liberté, elle ne saurait être absolue, elle ne saurait être synonyme de licence. La liberté des universitaires ne consiste pas à pouvoir écrire, publier ou enseigner n'importe quoi, et leurs obligations sont au moins aussi importantes que leurs droits. Récuser la notion même d'objectivité, utiliser des postulats erronés, ériger des contre-vérités en dogmes, escamoter la vérification, trouver avant d'avoir commencé à chercher, se dispenser de cohérence logique et de rationalité, s'exonérer de procédures de validation, tordre les raisonnements, tricher dans le recensement des sources, et Dieu sait si le juriste que je suis voit cela et assiste à cela aujourd'hui. Soumettre la recherche à des impératifs doctrinaires, falsifier les résultats, faire taire sous la menace la critique et la contradiction, tout ceci ne peut tenir lieu de science et prétendre à la protection de la liberté académique. Alors, force est cependant de reconnaître que les instances d'évaluation, de qualification, de recrutement ne sont pas tout à fait aujourd'hui à la hauteur de leur mission et font preuve d'un laxisme coupable devant des thèses, travaux, colloques et publications, souvent d'une nullité scientifique flagrante, voire d'une malhonnêteté intellectuelle grossière, allant jusqu'à, et on en a parlé plusieurs fois hier, allant jusqu'à remettre ouvertement en cause le principe d'objectivité. Si l'on vous dit que l'objectivité est un privilège blanc, que la rationalité est un privilège blanc, ça veut dire que le droit qui encadre l'université, le droit universel, y compris des recommandations de l'UNESCO, sont donc l'expression d'un privilège blanc. Et alors là, tout est par terre, hein, puisque le respect du droit lui-même va devenir le respect, en fait, d'une culture minoritaire, eurocentrée, hétérocentrée, et mâle ou autre. Et donc là, nous sommes vraiment au cœur du problème, c'est-à-dire que ce sont les principes mêmes qui gouvernent l'enseignement supérieur et la recherche qui sont récusés au nom du fait que ces principes seraient justement des principes dominants et seraient des privilèges blancs ou des privilèges mâles ou autres. Alors, le contrôle et l'évaluation de la qualité de la recherche et de l'enseignement sont prévus par des institutions, mais force est de reconnaître, il suffit de savoir comment fonctionnent nos systèmes, à partir du moment où ce type d'idéologie et d'attitude se répand dans l'université. Vous avez, par exemple, un doctorant qui veut faire une thèse sur le privilège blanc dans l'élaboration des indices de crème à bronzer. S'il se trouve quelqu'un pour diriger cette thèse, ce quelqu'un est habilité à diriger des recherches ou il est professeur et il appartient lui-même à ce courant de pensée. Bon. La thèse se termine, il trouvera facilement un comité un jury de thèse à composer qui va trouver ça très bien et qui va valider cette thèse. Bon, ensuite, on ira pour faire qualifier la personne, l'auteur de cette thèse, devant une section du CNU qui est elle-même, dans une grande partie, est convaincue de ses théories. Ben, tout ça va passer, ça va passer, ça va passer, et on va voir arriver des enseignants-chercheurs qui vont refaire des petits, parce que finalement, tout ça s'auto-reproduit par clonage, en quelque sorte. Donc, on ne peut pas véritablement sortir du système. Donc, il y a une grosse difficulté, et force est d'admettre également que les instances extra-universitaires d'évaluation et les instances de tutelle ne sont pas à la hauteur. Mais je voudrais dire aussi, et je conclurai là-dessus, que l'État a un double langage. Les pouvoirs publics ont un double langage, et dans les pouvoirs publics, je range à l'origine de beaucoup de textes français le droit de l'Union européenne et le droit européen en général. Il ne s'agit pas évidemment pour nous de censurer ou de sanctionner des universitaires, mais il s'agit pour les pouvoirs publics nationaux et européens d'arrêter, de promouvoir, relayer, encourager et financer généreusement des études et des concepts liberticides et, à vrai dire, fondamentalement illibéraux. ce qui passe d'abord par un changement de parole politique dans les institutions européennes. Quelle est l'attitude de la France quand l'Europe pond des directives qui nous arrivent ensuite, d'ailleurs, dans nos courriels d'universitaires. C'est-à-dire que nous recevons tous les jours, des directives des présidences d'université, mais qui sont le relais de traduction de plans de programmes nationaux, eux-mêmes en application de directives européennes. Et on voit tout ça arriver en avalanche sur nos pupitres. Et il faudrait effectivement qu'il y ait une désolidarisation des autorités publiques avec un discours qui soit clair et avec des actes en harmonie avec les discours. Or, je dois dire que j'observe surtout des injonctions contradictoires. C'est les pouvoirs publics. L'État lui-même a tendance à porter atteinte au principe de neutralité idéologique et d'objectivité scientifique en laissant des revendications communautaires et militantes issus de la société civile, se répandre tout à la fois dans les programmes, les manuels, les interventions en milieu scolaire, ainsi que dans la recherche universitaire. Et le cerveau des étudiants et des élèves est devenu un enjeu militant, encouragé, voire institué par l'État, qui met ainsi la puissance publique au service d'intérêts catégoriels. Et aux côtés des affirmations du code de l'éducation que je vous ai donné tout à l'heure sur le principe d'objectivité, etc., aux côtés de ces dispositions du code de l'éducation, on a vu progressivement des lois bavardes prises donc en matière d'enseignement supérieur rajouter des dispositions à ce code de l'éducation qui répondent à des revendications militantes. Ainsi, par exemple, est-il désormais écrit dans le code de l'enseignement supérieur que l'enseignement supérieur contribue à la construction d'une société inclusive. Ah bon ? Je n'avais jamais su que c'était ma fonction. Bon. Que je dois donc contribuer à construire une société inclusive, que cet enseignement supérieur doit aussi contribuer à la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable. Ça, c'est tout récent, ça vient d'être rajouté. Et le mieux, alors, ça c'est la loi Fioraso, que le service public de l'enseignement supérieur mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative. Donc, littéralement, chaque universitaire, moi donc, je suis invité par le législateur à mener des actions militantes dans mes cours. Là, il y a une injonction contradictoire, puisqu'on m'avait dit avant que je devais être objective. Bon, donc je ne comprends pas très bien ce que viennent faire ces rajouts systématiques qui sont faits dans le code de l'éducation. Et il est évident que ce type de phraséologie n'est pas compatible avec les principes précédemment rappelés. Je vous rappelle aussi que c'est le législateur lui-même qui avait prescrit, dans l'article 2 de la loi dite Taubira du 21 mai 2001, que les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage transatlantique la place conséquente qu'ils méritent. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, la place conséquente qu'on mérite. Bon, mais je vois quand même que c'est bien le législateur qui nous prescrit un certain nombre de programmes universitaires. C'est encore d'ailleurs ce même législateur. Cette fois-ci, celle-là a été abrogée, cette disposition, parce qu'elle n'était pas assez décoloniale. Mais c'est quand même ce législateur qui avait cru de bon goût d'écrire également dans la loi du 23 février 2005 que les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite. Et les 10 programmes devaient reconnaître, nous devions reconnaître, le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. On comprend que ça n'est pas plus du tout à certains des coloniaux. Mais on voit bien que là, le législateur s'égare. Le législateur s'égare et il vient dire en fait le contraire des principes que lui-même a fixés initialement dans le code de l'éducation. Alors l'accumulation de ces lois liberticides a fini par déclencher des pétitions d'historiens et de juristes universitaires et même quelques censures du Conseil constitutionnel. Mais depuis, il faut reconnaître qu'au nom des politiques de diversité et d'égalité des sexes, les instances européennes et nationales ont fait déferler sur l'université un cheval de Troie militant intersectionnel, particulièrement liberticide. Nos boîtes mail sont en permanence inondés d'annonces, d'informations, de recommandations, de prescriptions issues des services centraux de l'université, relayant eux-mêmes des directives européennes et ministérielles. Nous devons suivre des formations dispensées par des associations militantes pour nous former au respect de l'égalité. Et le mieux, la petite dernière, là, qui a provoqué une émeute dans mon laboratoire à l'Université de Rennes, les directeurs d'équipes de recherche de notre université nous ont récemment sommé de désigner parmi nous, donc parmi les enseignants-chercheurs, un référent égalité que j'ai appelé commissaire à la genritude pour promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, communiquer sur les actions mises en place, mais dans le cadre de notre laboratoire. En fait, c'est quand même hallucinant. Il faut donc communiquer sur les actions que nous mettrions en place, les campagnes de sensibilisation que nous ferions, mais ce n'est pas le rôle d'un chercheur à l'université. Et évidemment, nous devons dire tout ce que nous faisons pour la prévention contre les stéréotypes et les discriminations. Il n'est pas ajouté que nous devons faire de la délation des collègues qui auraient pu regarder une étudiante ou une doctorante particulièrement agréable. Mais enfin, on comprend bien que c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'on met en place dans les universités tout simplement des mouchards. Hein. Et on est là, on a fait récemment dans le Figaro le rappel, le rapprochement avec la révolution culturelle chinoise. On s'y sent complètement. Il y a une atmosphère de révolution culturelle qui se met en place, où de plus en plus des instruments de délation sont prescrits dans le cadre de l'université. Alors bien sûr, pour terminer, tous ces courriers, annonces et autres communications sont rédigés en écriture dite inclusive, sous le nez d'une tutelle qui non seulement ne réagit pas, mais en réalité recommande, encourage et finance et allègrement tous les jours. Ce sont de plus en plus de directives et de prescriptions qui sont faites dans une écriture que, soi-disant, les autorités publiques récusent, mais ils ne se donnent pas véritablement les moyens de la prohiber. Donc j'avoue que face à cette duplicité des pouvoirs publics, je ne suis pas tellement optimiste sur l'amélioration de la qualité de la science française, car c'est bien de cela. On peut bien sûr parler d'idéologie, etc., mais ce qui est grave, selon moi, c'est l'altération de la qualité de la science française, la réputation. J'ai vu récemment citer pour la première fois la faculté de droit et de sciences politiques de Rennes dans un article de presse. J'ai été meurtrie parce que pour une fois, cette fois-ci, nous étions ridicules. C'était la première fois que ça arrivait quand même à ma faculté de droit à la suite de recrutements qui n'auraient pas dû être. Bon, voilà. Et donc là, il y a eu toute une série de lâchetés qui a abouti au fait que, pour une fois, ma faculté était ridicule dans un article de presse à la suite de colloques ou d'interventions de certains enseignants. Et donc, je dois dire que c'est effectivement... notre ami Mathieu Bocoté a dit hier, il faut déconstruire la déconstruction, il faut faire ce qu'il fait, à merveille d'ailleurs, depuis longtemps, en démontrant la vanité et la bêtise de tout cela, mais il faudrait faire plus. Il faudrait que chaque thèse, chaque article publié fasse l'objet d'une critique. Je m'y suis essayée, mais c'est épuisant. On ne peut pas passer sa vie à reprendre les articles, les thèses, les ouvrages de collègues pour démontrer que ceci est faux, que la source est fausse, que la démonstration est biaisée, etc. C'est quand même très négatif comme activité et c'est fatigant. Mais c'est ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est la responsabilité universitaire, c'est de démontrer la fausseté, la fake science qui se développe chez nous. Donc je ne suis pas d'un optimisme, mais enfin je me dis que peut-être la lassitude finira par s'emparer de ces militants. Je vous remercie.
Alors,
Merci pour cette présentation à la fois rigoureuse et vigoureuse, les deux n'étant pas incompatibles, vous nous l'avez prouvé. Je regarde mon chronomètre pour tenir le temps qui nous est imparti, qui est d'une heure pile. Il nous reste un tout petit peu moins de 10 minutes. Alors, je voudrais commencer en initiant les questions par une que je vais adresser à Rémi Pelle, mais je vais lui demander d'être extrêmement bref. Je vois qu'il nous a amené un très, très grand nombre de livres et je ne voudrais pas ni le frustrer, lui, ni vous frustrer, vous. Donc, peut-il aborder le fond? Il a abordé tout à l'heure les questions juridiques, comme Anne-Marie Le Pourrier à l'instant, mais quelques mots sur le fond, à partir de vos livres.
Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais surtout pas empiéter sur la table ronde de tout à l'heure. Mon intention initiale était de parler de la notion juridique de race et d'identité. Je ne vais pas le faire, je vais plutôt rebondir sur ce que m'a dit mon collègue de Sciences Po, et puis sur les propos du ministre hier. Le ministre, qui a fait un remarquable discours, a quand même mentionné la Turquie, en signalant que c'était la preuve qu'il y avait une compatibilité de la laïcité et de l'islam. Rappelons-nous une chose, c'est que Atatürk, ça vient après le génocide arménien. Donc, en termes de diversité, il n'y en a plus à ce moment-là. C'est comme ça que cet empire ottoman, qui était multiculturel, est devenu mono-islamique. Et en réalité, la Turquie est devenue une dictature militaire avec Atatürk laïque, entre guillemets. En réalité, c'est un concordat. Et quand l'Union européenne lui a demandé d'alléger sa dictature, effectivement, la démocratie s'est exprimée par les unes. Et qui est-ce qui est remonté? C'est l'islam, tout simplement. Alors, à ce sujet, je voudrais, et deux mots encore, puisqu'il s'agit d'aborder les questions de colonisation et d'éviter la victimisation permanente, il faudrait quand même rappeler ce qu'il en est d'un certain nombre de faits. Concernant l'esclavage musulman a commis, l'esclavagisme musulman a commis plus de victimes que l'esclavagisme occidental. Vous avez un très bon livre de Tidiane Ndiaye, qui est musulman et africain, Le génocide voilé, sans citer évidemment les travaux de nos collègues Grenouillot. Concernant l'esclavage, 95% des personnes que nous avons déportées ont été vendues par des Africains. Alors, si Laval et Bousquet étaient des complices du nazisme, que dire de ces monarques africains qui ont vendu leurs frères? Concernant la prétendue tolérance en islam, posons-nous la question. Avant la colonisation française, qui a créé un système d'indigènes injuste, qui avait-il? La terre était gréco-romaine, judéo-chrétienne, il n'y avait plus de chrétiens, quasiment. Les juifs étaient résiduels et ils étaient soumis à un régime d'oppression, d'humiliation, qui était la dimitude. Les Lumières en islam, lisons le livre de Dominique Urvois, simplement sur Averroès, vous verrez ce qu'était, enfin vous le savez tous, sur la colonisation, nous avons dénoncé les crimes de la colonisation quand il le fallait. C'était pas Ferry, en effet, c'était Lamartine, dans un discours absolument remarquable de 1846, où il parle de crimes de guerre. Mais est-ce que la colonisation française était un génocide? Pendant la colonisation française de l'Algérie, la population musulmane est passée de 3 à 9 millions. Combien la population musulmane, que sont devenus les chrétiens en Turquie? Pendant la durée de la colonisation turque, 4 siècles, nous avons fêté l'année dernière le début de l'anniversaire de la révolution grecque. 4 siècles d'oppression. Il faut peut-être en tenir compte aussi. Et puis, dernier mot, parce que j'ai promis de ne pas être trop long, concernant le fait que l'islam pourrait s'acclimater à l'Europe et accorder la séparation de l'Église et de l'État, en quelque sorte, et la tolérance. Lisons notre collègue Ali Mezgani, qui est professeur de droit à Tunis et dans cette université, l'État inachevé. Que nous dit-il très lucidement? Il le dit prudemment, bien sûr, mais que nous dit-il? Parce que le système de droit musulman est personnaliste, il suit le musulman comme son ombre là où il se trouve. Les arguments, deuxièmement, là où la loi de Dieu est méconnue, le djihad est légitime. Si l'espace de la tolérance n'est plus celui du djihad, ce n'est pas pour autant pour renoncer à la normativité. Il faut l'imposer petit à petit. Les arguments scripturaires ne manquent pas à ces effets. Qu'est-ce que c'est les arguments scripturaires? C'est le Coran, langue sacrée, réputée incritiquable. Dernier mot, et je m'arrête, qui nous concerne directement. À défaut de pouvoir soumettre l'État, l'islam en Occident se contentera des concessions que le culturalisme et le communautarisme veulent bien l'aider à obtenir. Et donc on voit bien, très bien, la convergence des luttes entre nos islamo-gauchistes et l'islam. Ils s'entendent à merveille. Simplement, nos amis LGBT azertis, que deviendraient-elles, que viendraient-ils, ou ça, je ne sais pas comment il faut dire, puisqu'ils récusent les classifications, s'ils faisaient que traverser la Méditerranée et aller voir le sort des homosexuels, des femmes dans ces pays dont ils nous disent qu'ils sont une sorte de modèle alternatif à celui de l'Occident. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, si elles sont mais vraiment très courtes et que les réponses sont du même acabit, on peut s'accorder peut-être deux questions s'il y en a dans l'auditoire. Je ne sais pas. Monsieur ?
Madame la juriste, je voudrais savoir s'il y a une influence des États-Unis en ce qui concerne ces doubles injonctions dont vous avez parlé, notamment tout ce qui concerne l'obligation ou la demande sur les universitaires de militantisme ou de promouvoir certaines idéologies de l'inclusivité, etc. Est-ce qu'il y a la moindre, est-ce que vous avez remarqué la moindre influence américaine en Europe, donc?
Sur les normes européennes, vous savez que Bruxelles est la capitale mondiale du lobbying, bon, plus que Washington. Les normes européennes, les recommandations du Parlement, les livres blancs de ceci, programmes cela, plans cela, sont très largement dictées par des ONG et des réseaux militants qui interviennent auprès des institutions européennes, dont certaines d'origine américaine bien connues. Bon, donc là, je vais... La traçabilité de tout cela, et c'est systématique en ce moment, tout ce qui sort de Bruxelles, y compris du Parlement européen, hein, qui est un haut lieu de lobbying, on vous avait vu récemment la campagne du Conseil de l'Europe sur le voile, etc. Ça sort de quelque part. Bon, hein, et le Conseil de l'Europe ne fait pas ça tout seul. Il est actionné par des réseaux d'ONG hyper puissants et hyperactif au niveau des institutions du Conseil de l'Europe. Et bien sûr, ça quand même, on l'a bien démontré hier, je crois que c'était combien la société anglo-saxonne avait ce mental profondément ancré. Je vais juste vous raconter une petite anecdote. J'ai enseigné pendant 4 ans à la Martinique, à la faculté de droit de Martinique, de 1994 à 1998. Au moment où je m'apprête à rentrer à Métropole, j'ai une étudiante, qui était une bonne étudiante de DEA, de Master 2, qui me dit qu'elle veut faire une thèse sur les droits des femmes en co-tutelle avec une université canadienne. Tout ça un petit peu bizarre, moi les droits des femmes, c'est pas mon truc. Bon. Mais enfin bon, elle est bonne et elle a envie de faire ça, très bien. Et donc je lui dis, bah, écoutez, oui, on va peut-être faire un sujet, alors peut-être ce sera intéressant, de droits comparés franco-canadiens, sur la façon dont on aborde la question des droits des femmes dans une société unitaire, universaliste et dans une société fédérale, multiculturelle. Après tout, pourquoi pas. Et elle part là où j'ai pu trouver quelqu'un qui accepte de prendre une co-tutelle là-dessus, c'est-à-dire l'université Laval, mais je ne savais pas très bien où j'avais mis les pieds. Et donc, elle part 6 mois avec des moyens considérables sur place, etc. Et au bout de 6 mois, elle m'envoie à Paris sa problématique de thèse. Quand j'ai imprimé et que j'ai lu, ça m'est tombé des mains. C'était épouvantable. Le lavage de cerveau avait produit ses effets. Et elle m'écrit. Alors d'abord, c'était plus droit comparé, société multiculturelle et société unitaire universaliste. C'était devenu intersectionnel, c'est-à-dire les droits des femmes de la minorité martiniquaise et de la minorité québécoise. Ça commence à devenir plus que bizarroïde, je ne voyais pas clair du tout. Et puis surtout, dans un espèce de discours complètement, tout le discours qu'on a entendu hier, et avec, nous, en gras, au milieu, l'objectivité est au mieux une aporie, au pire une imposture. Et voilà ma première rencontre de juriste avec cette conception des choses. Et à partir du moment où elle me dit ça, alors là, moi, j'ai arrêté tout de suite. Hein, j'ai dit, écoutez, mademoiselle, ça a été, la réponse a été immédiate. J'ai vocation à diriger une thèse, pas un tract. Donc, je vous demanderai de bien vouloir chercher un autre directeur de thèse. Je n'ai pas voulu me battre pendant 3 ans avec ce type de discours. C'était pas la peine. Bon. Mais voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a 20 ans, c'était déjà le type de discours. L'objectivité est une imposture.
Merci pour ce témoignage éclairant. Et alors, je suis désolé de vous interrompre. Une dernière question, effectivement, mademoiselle, qui avait levé le doigt depuis le début. Pierre-Henri, tu as donné le micro. Vas-y.
Oui, j'aurais une question qui va à peu près dans le même sens, qui s'adresse à la fois à Anne-Marie Le Boulay et à Rémi Pellet. Est-ce que vous avez entendu parler de la notion de caractéristique protégée qui a été utilisée récemment par l'administration de mon employeur, qui est l'université de Princeton, justement pour tenter d'établir, de réfuter le régime de l'égalité de droit. Maintenant, j'ai l'impression que ce qui s'impose dans le droit, c'est plutôt une inégalité qui consisterait à accorder des droits spécifiques, donc selon les caractéristiques protégées que l'on a. Et je voulais savoir si cette notion de caractéristiques protégées est arrivée en France ou pas.
Pas encore, à ma connaissance. Ce n'est pas arrivé dans ces termes-là, ce n'est pas dit comme ça. Mais on voit bien que l'idée est là. Mais caractéristiques protégées, ça, je n'ai pas encore dans mon lexique.
Merci pour cette information. Donc.
Très bien. Je vous propose que nous nous arrêtions là, hein, et rendez-vous à la deuxième table ronde sur l'école dans quelques minutes.